Retrouvez toutes vos émissions préférées en podcast en téléchargeant dès à présent l'application Mon Paris FM sur Apple Store ou Play Store. Radiophoniquement.
Mon Paris FM.
Salut et bienvenue dans votre émission À bout de souffle. Pourquoi à bout de souffle? Tout simplement parce que déjà nous serons deux derrière les micros. Ensuite, parce qu'à la fin de l'émission, nous espérons bien que vous serez à court de souffle par tout ce que vous aurez entendu et appris. Et surtout parce que cette émission est un partenariat entre deux entités, Mon Paris FM et isnews.fr, deux entités promouvant la mixité sociale, les parcours atypiques et la réussite par le travail. Au cours de chacun de nos épisodes, vous aurez l'occasion d'écouter un acteur ou une actrice plus ou moins connue, revenir sur son parcours, ses rencontres, ses réussites et ses échecs, des parcours qui, on l'espère, en inspirera plus d'un d'entre vous.
Je suis pas bien, donc la morale tu vas la faire à d'autres. Là je suis pas bien.
Pour cet épisode avec moi, on le surnomme l'enfant appliqué du cinéma, voix douce et mielleuse, dans un physique imposant, regard profond et sourire chantant. C'est lui qu'on appelle quand on veut sublimer un film ou une série. Ce qui est marquant chez lui, c'est sa modestie. Que ce soit pour Le Parisien, Le Monde ou Actu Clap, il se plie avec sincérité et profondeur à l'exercice du question-réponse. Profondeur et sincérité que l'on retrouve dans son jeu d'acteur. On le retrouve comme tête d'affiche à la tête du film La Gravité ou encore dans la nouvelle série de Booba. Ourika, Max Gomi, c'est mon invité. Comment ça va, Max?
Ça va et toi, Abou?
Bah ça va, ça se passe. Hein. Très heureux de te recevoir ici.
Bah merci, moi aussi, ouais, c'est un honneur d'être là.
On va rendre hommage à Abdé Mazienne qui nous a mis en relation. Abdé qui est passé aussi dans cette émission.
Grand Abdé.
Et on le remercie pour ça. J'ai l'habitude avec mes invités de faire ce que j'appelle un jingle fiche d'identité.
Okay.
En gros, c'est simple, il y a une fiche d'identité, il faut qu'on la remplisse ensemble. Est-ce que c'est bon pour toi?
Bien sûr.
Alors toi, tu es la fiche d'identité numéro 141-069-08.
Tout ça?
Tout ça. Il y a Aziz Aboudrar qui disait on dirait un numéro d'écrou.
Ouais, non, mais je connais pas ça.
Nom, prénom ou pseudo?
Donc, nom Gomis, prénom Maxime et pseudo Max, Max Gomis.
Date de naissance?
20 décembre 1989.
Lieu de naissance?
Arpajon, Essonne.
Profession?
Comédien.
Passion?
Football.
Talent caché?
Talent caché... Talent caché... Difficile. Je dirais...
Ça peut être football aussi, hein.
Ouais, football, on va dire.
Lieu de résidence?
Vigneux-sur-Seine.
Réseaux sociaux?
Bah, Instagram. Instagram, Max Gomis.
Alors, tu le disais, t'es né en banlieue parisienne.
Exactement.
Comment elle se passe, l'enfance de Max Gomis?
Bah, écoute, mon enfance, elle se passe plutôt bien. Moi, comme je t'ai dit, je suis né à Arpajon, dans le 91. Donc, j'y suis resté jusqu'à à peu près mes... Pardon, jusqu'à à peu près mes 8 ans, 9 ans. Et en 99, j'arrive à Vigneux-sur-Seine. Et ouais, c'est un changement radical, on va dire, entre Arpajon. Arpajon, c'est un petit village. Et Vigneux-sur-Seine, c'est vraiment la ville de banlieue pure, tu vois.
Et c'est quoi qui change? Est-ce que c'est l'entourage, les fréquentations?
Bah,
est-ce que
je dirais,
c'est que la taille de la ville?
Ouais, déjà, la taille de la ville. Et après, c'est plus aussi au niveau de la population, tu vois. Arpajon, c'est une ville où il n'y a pas énormément d'habitants. Où on peut compter Moi, je ne te dirais pas on peut compter les Noirs ou quoi. Mais Vigneux, c'est vrai que c'est beaucoup plus populaire. C'est une ville... ouais, ça n'a rien à voir. Franchement, rien à voir.
Est-ce que tu as des frères et sœurs?
Ouais. J'ai une grande sœur, deux grands frères.
Et c'est quoi ta relation avec eux? Ah, t'es le petit de la famille en plus,
hein,
t'es le dernier.
Last one. Ouais.
C'est quoi ta relation avec tes frères et sœurs?
Bah, franchement, on est une famille assez soudée. On s'entend très bien. On se voit régulièrement. Ouais, franchement, j'ai vraiment des liens très 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 forts avec ma fratrie. C'est mon équilibre en fait.
Et ta relation avec tes parents, en tout cas à cet âge-là, quand t'es plus jeune, c'était quoi la relation?
Bah, tu vois, comme je t'ai dit, moi, je suis le dernier de la famille, donc forcément, ouais, exactement.
Le gâté.
Moi, tu vois, avec ma mère, on a une relation aussi très, très fusionnelle. Avec mon père, c'est pareil. Bon, c'est différent, le père, tu vois, tu connais, il y a beaucoup plus de pudeur. Mais avec ma mère, ouais, c'est une relation très, très forte jusqu'à aujourd'hui, tu vois. Et on va dire aussi avec mes frères et sœurs, j'ai toujours été celui à qui on offre des... Tu vois, quand ils travaillaient, forcément, tout le temps, ils pensaient à moi. Franchement, ils me mettaient bien.
T'as eu beaucoup d'amour et de...
Beaucoup, beaucoup. Beaucoup de bienveillance.
C'était pas le petit dernier qu'on envoie acheter la baguette?
Ah si, tu connais, ça, c'est la base. Mais bon, c'était le prix à payer. Mais en vrai, franchement... Ma sœur, comme je le dis, moi, ma sœur, c'est vraiment mon exemple sur tout ce que j'ai fait plus ou moins dans ma vie. Mmh. Je me suis beaucoup inspiré de ma grande sœur. Après, mes frères, c'est très protecteur. Mon frère qui est juste au-dessus de moi, qui est 87. En fait, on a tous 3 ans d'écart entre ma sœur et mon plus grand frère. On a tous 3 ans d'écart. Et donc, du coup, c'est vrai que ouais, j'ai bénéficié de leur bienveillance.
Et comment ça se passe à l'école? T'étais quel genre d'élève? Ça, c'est une question, à chaque fois que je la pose, elle fait sourire.
Franchement, à l'école, tu vois, je ne peux pas dire que j'étais un bon élève. Je n'étais pas un mauvais élève, mais en vrai, moi, j'étais très dispersé, distrait. Je venais en classe, je ne comprenais pas forcément les enjeux liés à la scolarité. J'ai mis du temps à le comprendre. Jusqu'au lycée, franchement, je ne comprenais pas ce que je faisais à l'école. Donc, j'étais un élève un peu dissipé. Parfois, j'étais un peu... On va dire, je faisais peut-être preuve d'insolence, mais je n'étais pas forcément conscient de tout ça, tu vois. Parce que comme je t'ai dit, j'allais en classe, c'était plus... je ne comprenais pas.
Mmh. Et tu le disais, tu as grandi du coup à Arpajon. Du coup, l'école, tu fais Arpajon jusqu'à 8-9 ans.
CM1, ouais.
CM1. Près, ouais. Tu le disais, Arpajon, il n'y a pas beaucoup de... Enfin,
moins de diversité.
Voilà, il y a moins de diversité. Merci d'avoir utilisé ce terme-là. Il y a moins de diversité. Est-ce que toi, tu l'as ressenti à l'école? Parce que je recevais des invités avant toi, notamment Abby Defoy, qui m'expliquait qu'à l'école, c'était très compliqué à cause du fait qu'elle soit noire. Il y a Abouta, lui, c'était un peu plus simple parce qu'il a grandi à Paris. Mais est-ce que toi, il y a Aboubakar Sakanoko aussi qui nous expliquait que lui aussi, c'était compliqué à l'école, alors que lui, pourtant, il était à Grigny. Est-ce que toi, tu as ressenti une différence de traitement avec tes autres camarades?
Non, franchement, pas du tout. Pas du tout, c'est avec du recul que je te dis, que je fais le constat en gros qu'il y avait beaucoup moins. Mais non, franchement, à l'école, j'avais mes camarades de classe aussi, tu vois, j'avais des noirs, des arabes et tout, des blancs. Mais non, j'ai pas ressenti cette différence. Après, à cet âge-là, en réalité, j'étais pas forcément porté sur la couleur de peau, ouais, je prêtais pas attention à ce genre de choses. Donc je peux pas te dire que ouais, j'ai ressenti une différence ou non.
Et au collège, comment ça se passe? Toujours dissipé? C'est là où tu es un peu plus dissipé. Est-ce que tu es un peu plus dissipé au collège qu'en élémentaire?
Au collège, beaucoup plus. Au collège, en fait, si tu veux, moi déjà, franchement, j'ai eu du mal entre la primaire et le collège. Ma première année de collège en 6e, c'était difficile, je te jure, franchement, c'était dur.
C'est quoi qui était dur?
En fait, j'avais du mal déjà en fait, c'est le changement entre la primaire et le collège. Déjà, franchement, c'était une marche trop grande. Donc moi, j'ai redoublé ma 6e parce que je crois que j'étais pas prêt psychologiquement. C'est-à-dire qu'il y avait des gens un peu... J'ai pas une bonne expérience de ma première 6e. Franchement, c'était dur. J'avais une prof principale, elle était dure. Je me rappelle, ma mère, elle était souvent convoquée au collège. Et en vrai, mon redoublement, je pense qu'il a été bénéfique. Parce que ça m'a permis derrière de rencontrer toute ma génération d'amis. J'ai gardé quand même des amis de ma première 6e. Mais en vrai, mes vrais amis aujourd'hui, je pense que je ne les aurais pas rencontrés si je n'avais pas redoublé ma 6e. Et après, niveau scolaire, je ne sais pas, j'avais l'impression que j'avais tellement de lacunes. C'était compliqué. Je n'arrivais pas à suivre.
Et comment ça se passe du coup la 5e? Tu fais ta deuxième 6e?
Je fais ma deuxième 6e. Déjà, ça se passe beaucoup mieux. Parce que j'ai l'impression que le rythme, voilà, j'arrive à m'adapter un peu plus au rythme. Mmh. Parce que voilà, j'en ai fait une, donc de la deuxième, je ne peux pas la foirer. Donc on va dire que le rythme, il est beaucoup plus... Je m'adapte plus facilement au rythme. Mmh. Et la deuxième, sixième, ça se passe super bien. Franchement, en vrai, ça se passe super bien. Je pense, même si à cet âge-là, c'est tôt, je pense gagner un peu en maturité, on va dire. Et tu sais, le collège, c'est l'étape... C'est une étape importante quand t'es petit.
C'est la passation entre les montées.
Et là, en vrai, t'as vu, t'es un peu en qualité d'ancien quand t'as redoublé. Donc franchement, ouais, ça se passe beaucoup mieux ma seconde, sixième. Même niveau notes, ça va, ça se passe beaucoup mieux. Mais il y a toujours des matières où je bloque. En vrai, les mathématiques, tu vois, ça n'a jamais été mon truc. J'ai le souvenir de ma mère, la pauvre, qui essayait de m'apprendre les tables de multiplication. Ouais, plus de force avec moi, je te jure. Tu te rappelles avant les petits cahiers de brouillon, il y avait
oui.
les...
Malheureusement, je
me rappelle. Elle n'avait pas de force, je te jure. Un jour, elle a pris toute une après-midi, je m'en souviens, comme si c'était hier, la pauvre, je te jure. Mais ça ne voulait pas rentrer.
Et comment tes parents ils ont vécu en fait, le fait que toi tu redoubles ta sixième? Tu le disais, ta mère elle était beaucoup convoquée.
Ouais.
On sait que dans certaines familles ça crée des cassures. Il y a deux manières de traiter ça. C'est soit on est fâché contre l'enfant et voilà, soit on est dans le soutien, on l'accompagne, on se dit que c'est pas forcément de sa
Franchement,
faute.
Moi j'ai toujours bénéficié du soutien. Après, au niveau scolaire, c'est beaucoup plus ma mère qui me suivait. Ma mère au final, franchement, le redoublement, elle m'a surtout rassurée par rapport à ça, tu vois. Mais elle ne m'a jamais blâmé ou insulté de bon à rien ou ce genre de choses, tu vois. Franchement, elle m'a toujours encouragé, peu importe quand j'ai échoué ou pas. Même quand je n'avais pas forcément des bonnes notes ou des bons bulletins, je n'ai pas le souvenir que... Par contre, mes grands frères, tu vois, ce n'était pas pareil.
Ouais,
Donc moi, tu as vu, franchement, c'était... je te la vérité, en tant que dernier, je pense que j'ai quand même... ils ont été beaucoup plus souples avec moi, tu vois.
On en reparlera un peu plus tard, mais c'est peut-être aussi ce qui t'a aidé à être ce que... t'es aujourd'hui, parce que finalement c'est important aussi d'avoir ce rôle des parents derrière qui
c'est
sont plutôt
ça.
Moteurs
ouais,
que...
Complètement, ouais.
Et cinquième, quatrième, troisième, ça se passe bien?
Cinquième, ça se passe super bien. Pareil, j'ai des bons souvenirs. Moi, après, t'as vu, quand je pense au collège, je pense forcément à mes meilleurs amis, à Mzien Riaz. C'est vraiment, j'ai fait quasiment toute ma scolarité avec lui. Donc tu vois, c'est vraiment des bons souvenirs. J'ai des super anecdotes. Après, le cinquième, quatrième, franchement, ouais, ça se passe super bien. Et en fait, j'avais une continuité un peu dans les classes où on ne changeait pas trop de classe. Donc, ça veut dire qu'au final, même les professeurs, ils arrivaient quand même à nous suivre. Donc, ça va, ça se passe bien.
En troisième, il y a le choix, on le sait, du lycée.
Lycée
pro, orientation pro, CAP, général, techno. Toi, tu choisis quoi? Est-ce que c'est un choix qui t'est imposé ou c'est quelque chose que tu choisis vraiment?
Tu vois, en troisième, ouais, toute l'année, t'as les rendez-vous avec la conseillère d'orientation et tout, t'as cette espèce de suivi. Moi, franchement, je suis dans le flou total. Je sais pas ce que je veux faire. Et je me dirige vraiment par défaut sur un BEP électrotechnique.
Okay.
En fin de troisième, je pars dans un lycée électrotechnique à Ris-Orangis, lycée Mendès. J'ai rien à voir avec ce domaine, en vrai.
C'était pas du tout un domaine
mais
de prédilection.
Pas du tout. C'est pour ça que j'arrive même en classe, frérot, je te jure, je capte rien.
Mais pourquoi tu fais ce choix?
Parce qu'en vrai, c'est le lycée où il y a mon grand frère, Hyacinthe. Et mon grand frère Théo aussi, il était dans ce lycée. Donc, je sais pas, j'ai fait mes vœux. Mais franchement, je fais mes vœux sans conviction, tu vois. Je prends un BEP électrotech, j'y vais. Et en fait, mon année d'électrotechnique, c'est l'année, je sais pas si t'as connu toi Abou, l'année du CPE. C'était des grosses manifestations.
Non.
C'était une année où il y avait
la réforme.
Exactement. C'était une année où il y avait des grosses manifestations étudiantes. Donc ça veut dire mon année scolaire, elle a commencé en septembre, mais elle s'est terminée, je crois, au mois de février. Il y avait plus de cours, tu vois. Donc on était qu'en manif et tout. Et en vrai, c'était un mal pour un bien, dans la mesure où je me suis fait réorienter après derrière dans un autre lycée plus près de chez moi, à Draveil, lycée Nadar, où j'ai fait un BEP vente. Qui était un peu plus conforme un peu déjà à ma personnalité ou à ce que, tu vois, le truc électrotechnique. C'est bien, c'est intéressant, mais il faut aimer. Et moi,
et
c'était pas forcément...
Pas,
ouais, non, je suis pas forcément le mec le plus manuel, bricoleur, tu vois, c'est pas...
Il se résume à quoi, elle se résume, pardon, à quoi les journées de Max quand il sort de l'école, au collège, au lycée, qu'est-ce que tu fais, c'est quoi tes activités à côté? Je sais un peu, mais...
Ouais, mais en règle générale, ouais, quand je sors de l'école, nous, à côté du collège, tu sais, c'était simple à l'époque, un petit ballon de foot, tu joues au foot avec les amis, on fait tous les jeux, gamelle, dauphin, dauphine, policier, voleur, genre de choses, tu vois. Ouais, en règle générale, c'était ça un peu mes activités, quand j'avais le droit de sortir. Rarement les devoirs, franchement, je faisais mes devoirs, mais après, moi, tu vois, j'ai une maman, elle travaillait beaucoup de fou, tu vois. Franchement, donc ça veut dire que j'avais quand même de la liberté après les cours. Mais ouais, ou sinon, tu rentrais, à l'époque, nous, on regardait les mini-cubs. Donc
j'ai pas connu.
Ah, mini-cub, c'était la base. France 3, regardait mini-cub, je regardais les dessins animés. Et ouais, en règle générale, c'était ça un peu à la sortie de l'école. Ouais, je vois un peu les amis et après, je rentre à la maison.
C'est à quel âge que tu commences le foot?
Le foot, j'ai commencé, j'étais à Arpajon, j'ai dû commencer à 6 ans.
6 ans?
Ouais.
Et t'étais à quel niveau
Au foot.
Ouais, c'est bon, moyen.
Ouais, ça va.
C'est plus passion-loisir ou franchement, volonté de percer?
Plus passion-loisir, je vais pas te raconter de ça là. J'aimerais bien raconter d'autres choses, j'ai failli percer et tout ça, mais ouais, c'était vraiment plus passion-loisir. Mais franchement, j'étais un mordu de foot. Vraiment, vraiment. Après, tu vois, moi, quand je suis arrivé à Vigneux aussi, j'ai fait aussi beaucoup de handball. Et donc, du coup, je faisais du foot et du hand en même temps, tu vois. Okay. Et j'ai l'impression quand même, j'étais beaucoup plus fort au hand qu'au foot. Mais tu connais, on est des forceurs. Donc, on s'est plus dirigé vers le foot. Mais ouais, grosse passion pour le foot, franchement.
Et jusqu'à quel âge ça va
Jusqu'à à peu près, mais on va dire, je joue en club. Après, j'ai eu des grosses pauses. J'ai eu une pause entre 17 et 18 ans où j'ai arrêté le foot. Mmh. Et après, j'ai repris une licence, je pense, quand j'avais 20 ans. Et j'ai rejoué après peut-être 4 ans, ouais, jusqu'à mes 20 ans.
T'étais vraiment mordu de foot.
C'est ouais, ça, ouais, ouais, franchement. Après, ouais, c'est... Tu sais, dans mon entourage, c'est... On est des mordus de foot.
Je regardais du coup Actu Club, que je remercie beaucoup pour l'interview qu'ils ont fait. L'interview qu'ils ont fait, toi, t'étais défenseur central. Exactement. C'est ça. T'arrêtes le foot pour des histoires de...
Un peu sombre, ma
pour des histoires un peu sombres, comme tu le dis. Ta passion pour le cinéma, elle arrive comment? Je crois que ça commence par le théâtre, si exactement. Je dis pas de bêtises. Explique-nous, raconte-nous tout ça, surtout que c'est entre guillemets assez atypique, un jeune Renaud dans le,
ouais,
dans le théâtre.
Mais regarde, ouais, je vais t'expliquer, parce que moi, en vrai, ma toute première expérience dans le théâtre, elle se passe l'année où ma sixième qui est chaotique. En vrai, il y a une association qui se crée dans mon ancienne école primaire, école Paul Langevin. C'est Carole Réau, elle s'appelle la CCB, l'association. Et eux, si tu veux, ils font des cours de théâtre. Et donc, moi, je m'inscris. Et c'est là où vraiment, tu vois, je découvre vraiment tout début là-bas, c'est là où je commence à découvrir un peu le théâtre. Après, ça se passe au collège. Au collège, c'est j'ai quoi, 13 ans, ouais, 2002-2003, à 12-13 ans, il y a Zahir Reaz, le frère de mon meilleur poteau, qui crée un atelier vidéo, qui crée un atelier vidéo au collège. Et en fait, c'est tous les mercredis, à travers cet atelier vidéo, il nous initie un peu au métier du cinéma, au théâtre et tout. Et lui, il nous dit que la base, en gros, du jeu d'acteur, c'est de faire du théâtre. Donc, au début, c'est plein de jeux d'improvisation, tout ça. Et moi, franchement, tout de suite, je kiffe. Je kiffe parce que déjà, on prend du plaisir. Je suis avec tous mes copains. Et en fait, lui, il arrive à nous faire venir au collège le mercredi. Or que le mercredi, tu vois, c'est la journée où, gars, tu fais ta vie. Mais nous, tous les mercredis, toute l'année scolaire, on retourne au collège. Et en fait, on prend grave du plaisir, tu vois. Et c'est là où vraiment, moi, je découvre un peu la caméra, le métier du cinéma, le jeu d'acteur, tout ça. Et Zahir, comme il voyait qu'il a vu qu'il y avait un groupe quand même qui était bien déterminé, sérieux, concentré, il travaillait avec une association qui s'appelle Cité-Art, à Vigneux. Voilà. Et du coup, lui, il a pris les plus déter, il nous a emmenés à Cité-Art. Et là, c'est vrai que c'était la première grande étape qu'on a franchie. Et à Cité-Art, si tu veux, c'est là où on a vraiment fait du théâtre pendant 2 ans, où vraiment on s'est exercé au théâtre, on a fait une pièce de théâtre. Et la particularité de Cité-Art, en fait, si tu veux, c'était que c'était une association qui... Tu vois, à travers le cinéma, en fait, tu vois, déjà, il y avait une dimension sociale, mais c'était vraiment pour nous accompagner au maximum vers le professionnalisme. Eux, leur volonté, c'était de former une génération d'acteurs, de techniciens. C'est Jérôme Aldé, le président de l'association Cité-Art, qui, lui, nous a vraiment qui nous a donné un peu goût à ça, tu vois, de manière un peu plus professionnelle.
Et ça t'a appris quoi, toi, le théâtre, à titre personnel?
Déjà, ça m'a appris sur moi. Parce que c'est une forme aussi de mise à nu, tu vois. C'est-à-dire que le théâtre, tu te mets face à un public. Donc, ça veut dire que, tu vois, tu combats un peu ta timidité, tu combats un peu tes complexes. Donc, tu te mets un peu à nu. Donc, ça veut dire que déjà, pour la prise de parole en public, ce genre de choses, au-delà même du fait de devenir acteur, je pense que c'est un outil super intéressant parce que ça te permet de te libérer un peu de... C'est juste la parole, prendre la parole en public, ce genre de choses. Moi, ça m'a beaucoup apporté sur la confiance en moi. Et après, t'as vu, grâce à Dieu, aujourd'hui, tu vois, ça m'a permis, quand je revois un peu mon parcours depuis le collège, depuis la primaire, ça m'a quand même amené là où je suis aujourd'hui, tu vois, parce que c'est la base.
Et est-ce que quand tu commences, t'as cette cette idée de te professionnaliser ou c'est vraiment juste, c'est un kiff, c'est un loisir, on prend du plaisir et une fois qu'on est rentré à la maison, fin, c'est derrière?
Franchement, pas forcément, mais tu vois, ce qui est marrant, c'est que quand tu fabriques, entre guillemets, un film, tu sais que tu fais le scénario. Après, derrière, une fois qu'on a fait le scénario, on fait un espèce de casting, on distribue les rôles. Après, on tourne. C'est-à-dire que tout de suite, tu comprends un peu le mécanisme un peu d'un film. Donc, ça veut dire que derrière, quand tu regardes un film, quand je regardais un film à la télévision, ouais, j'essayais plus, je le voyais de manière différente. Donc, ça veut dire que j'essayais de comprendre comment ils avaient fait pour faire le... Et j'avais la sensation aussi de comprendre. Donc, ça veut dire que ma vision, en gros, quand je regardais un film... J'avais la sensation de comprendre ce que je voyais. Tu vois ce que je veux dire? Au-delà des scènes et tout. Donc, ça veut dire que tu connais les coulisses. Donc, ça m'a apporté en vrai une nouvelle passion. Parce que je ne peux pas dire qu'à la base, c'était ma passion. Mmh. Donc, je ne pense pas qu'en faisant, j'avais cette vision de devenir comédien. Mais au fur et à mesure, c'est venu.
Il y a en 2007, il y a la bascule.
Yes.
C'est là où tu fais ton premier casting.
Exactement.
Premier casting où tu es pris directement.
Ouais, folie.
Comment ça se passe? Comment tu es repéré pour ce casting-là? Dis-nous tout.
Bah pour ce casting, à bout, en vrai, moi j'aime bien un peu nommer pour que sur mon parcours on comprenne bien. C'est que quand on intègre Cité Art, tu as Miguel Saez.
Photographe.
Ouais, photographe, exactement. Et bien plus qu'un photographe, parce que même après derrière, quand on a monté une prod, il nous a filé beaucoup de coups de main. Miguel, il a vu, j'étais avec Tony, le maître, pareil, qui fait partie de mes meilleurs amis, et Hamzien. Il a vu qu'on était déterminés, il nous a présenté un agent. Donc, il nous a présenté mon premier agent, qui s'appelle Valérie de la Liave. Et du coup, elle, tout de suite, elle était très préoccupée par les questions de diversité dans le cinéma. Mmh. Donc, tu vois, elle nous a pris tout de suite dans son agence. Et en vrai, moi, dès que j'intègre l'agence, on fait le rendez-vous, ça se passe super bien. Et rapidement, elle m'envoie sur un casting. Je fais le casting, c'était pour Le Tuteur, avec Roland McDan et tout. Et je fais le casting, ça se passe super bien, je suis pris. Magnifique.
C'est le premier casting, c'est dingue. Bah oui, c'est quoi ta réaction?
Les gars, j'étais trop content. Mais t'imagines même pas. Non, franchement, c'était une folie. Dès que je fais les essais, franchement, ça se passe... En plus, ça va super vite, tu vois.
Et tu t'y attendais ou pas du tout?
Je l'ai limé le texte. Ça veut dire que je suis arrivé prêt. J'étais.
T'as appris, t'es.
Ouais, exactement. J'étais vraiment prêt. J'étais prêt quand j'ai fait le casting. Donc, après, forcément, tu vois, tu te dis pas je vais être pris, mais t'as quand même cet espoir-là. Et tu vois, les premiers castings, c'est là où tu passes le casting, tu penses qu'à ça. C'est-à-dire que j'ai fait mes essais, je pensais qu'à ça. Et dès qu'on m'a validé sur le rôle, ouais, explosion de joie, j'étais trop content.
Et comment ça se passe ensuite, la suite, pour ceux qui n'ont jamais fait de casting et qui n'ont jamais été pris
Là, ouais, on est en 2006, donc du coup, 2006-2007. Donc du coup, ouais, je fais le casting, je crois que je reçois la réponse assez rapidement une semaine après. Si mes souvenirs sont bons, le tournage, il se fait dans la continuité, genre un mois après. Moi, le tournage, il se passe à Marseille. Tu sais déjà.
Ouais, Marseille. Est-ce qu'elle vient de là on en parlera aussi un peu plus tard. T'as passion pour l'Olympique
non,
de Marseille
bien
elle vient
avant.
Avant.
Bien avant, ouais.
Mais
bien
c'est
avant.
Quand même dingue. T'es passionné par l'Olympique de Marseille. Le truc, c'est à Marseille.
Tu vois, et c'est la première fois de ma vie que je mets les pieds à Marseille quand je fais le tournage. Donc je découvre Marseille.
Ça, c'est un souvenir qui s'oublie pas.
Ouais, franchement, c'est un souvenir qui s'oublie pas. Je découvre Marseille, j'arrive, j'ai un hôtel en face du vieux port. Et en fait, moi, à l'époque, j'ai 16 ans. Donc, j'arrive, je suis en autonomie. Moi, je vis chez mes parents. Mmh. Donc, du coup, là, vraiment, tu voyages tout seul. T'arrives, c'est la première fois et tout, genre dans un hôtel tout seul. Après, mon expérience de tournage, c'était une bonne expérience parce que c'était ma première expérience. Mais comme je disais, tu vois, au début, c'était difficile parce que je ne me sentais pas forcément à ma place, tu vois. Dès que je suis arrivé sur le tournage, c'était difficile pour moi de prendre mes marques parce que je n'avais pas beaucoup de figures auxquelles m'identifier, tu vois. Donc, ça veut dire que j'étais le seul petit Renoir. Donc, tu vois ce que je veux dire? Déjà, c'était
première
un peu...
fois que tu quittes.
Ouais, t'as honte. T'es gêné.
Carrément, c'est le mot honte qui te.
Je sais pas. Tu vois, c'est. T'as vu, nous, on a un truc qui nous colle à la peau, le syndrome de l'imposteur. Là, on s'en détache petit à petit, tu vois. Mais vraiment, moi, je sais, dès que je suis arrivé sur le tournage du tuteur, pourtant, ils m'ont mis à l'aise. Hein. Je te dis pas que j'ai été mal accueilli ou quoi. Mmh. Mais c'est vrai que c'était difficile de prendre mes marques parce que j'avais pas de figure vraiment auquel m'identifier. Donc, j'osais même pas, tu vois. Prendre un gâteau à la table régie, ouais, ou faire, tu vois, vraiment, c'était compliqué. Et en discutant avec d'autres comédiens,
qui ont le même.
Bah, clairement, en vrai, je me rends compte qu'on avait tous plus ou moins un peu les mêmes complexes, tu vois, par rapport à nos premières expériences de tournage, parce que t'as l'impression. Il y a même un. Je sais plus si c'est Bilal Chegrani, c'est un comédien, il me dit, à la base, quand il est arrivé et il a vu la table régie, il croyait que c'était payant. Alors, tu vois, le truc, c'est fait pour tout le monde. Donc, ça veut dire que t'arrives, t'oses même pas te servir un verre de jus, quoi, parce que t'as l'impression que tout le monde te regarde.
Mais en plus, on vous forme pas à ça, on te prépare pas à ça.
Non, non, t'es pas. T'es, tu vois, c'est un tournage super professionnel. Moi, juste avant, j'avais connu des tournages, mais c'était pas les mêmes conditions, tu vois. Donc, bonne expérience, que ce soit dans le jeu, parce que pareil, j'avais la sensation quand même d'avoir bien appris mon texte et d'avoir donné le meilleur de moi-même pour ma mission principale, qui était d'incarner un personnage. Mais après, derrière, c'est vrai qu'autour, il y avait un peu de, on va pas dire de solitude, parce que je kiffais même être seul. Mais première expérience, forcément, tu vois, tu tâtonnes.
Et comment ils le vivent, ça, tes parents? Comme tu le disais, t'es le plus petit de la famille. Il y a leur petit bébé, entre guillemets, qui va pour Marseille, solo, pour un premier rôle. Comment ils l'ont vécu, ça? Ils étaient comment avec toi? Ils étaient heureux, inquiets?
Franchement, beaucoup de fierté, tu vois. Moi, à travers le regard de ma mère, je comprends tout de suite, tu vois, si je fais un truc bien ou si je fais un truc pas bien. Et vraiment, elle a beaucoup de fierté, tu vois. Ma mère, elle est croyante, donc ça veut dire que c'est des prières à toute patate. Mais vraiment, tu vois, ouais, beaucoup de fierté. J'ai senti que ce soit mes frères et sœurs, ils étaient fiers de moi. Et vraiment, tu vois, c'est là où, tu vois, comme je t'ai dit, mon parcours scolaire, il n'était pas génial. Donc, à travers ça, je pense que c'est l'un des premiers moments où j'ai senti que je pouvais rendre fier ma famille, c'est à travers ce tournage du tuteur.
Et tout ça, ça se passe bien. Malgré tout ça, tu arrêtes le cinéma en 2010.
Yep.
Comment on passe de cette formidable expérience en 2007, quelques rôles entre 2007 et 2010, et l'arrêt du cinéma en 2010?
Parce qu'il faut savoir que le cinéma, c'est pas facile. C'est un milieu où, tu vois...
Ça, c'est important de le dire.
Ouais, franchement, c'est important, tu vois. Sans dégoûter les gens, mais il faut être conscient quand même que c'est pas simple. Parce que tu peux te croire vite arrivé, mais résultat des courses, des fois, quand les castings, ils arrivent pas et que les rôles, ils rentrent pas, tu peux vite rentrer dans une phase un peu de doute où tu te dis, est-ce que je suis vraiment fait pour ça? Est-ce que c'est... Et en vrai, du coup, l'arrêt, il est un peu marqué par la fin de... Tu vois, je te parlais de l'association CTR.
CTR, en fait, qui c'est... va fermer.
Exactement. Donc nous, du coup, si tu veux, on avait tourné un dernier film qui s'appelle Vol comme un papillon en 2010. Et après, le groupe, on formait une famille. La famille, elle s'est un peu éclatée. T'as le président qui a décidé de prendre de voler de ses propres ailes et de monter sur Paris, monter une boîte de prod un peu plus professionnelle. Mais nous, on a été un peu les laissés pour compte, on va dire, tu vois. Donc, on s'est retrouvé un peu, le terme est fort, mais on s'est trouvé un peu orphelin de cette situation.
Ouais, c'est les gens avec qui, en fait, t'as grandi, qui t'ont appris le métier, qui t'ont mis le pied à l'étrier.
Et moi, en vrai, personnellement, j'ai été beaucoup, beaucoup affecté par la fin de CTR. Et du coup, c'est vrai que ça a marqué un peu l'arrêt de toutes mes ambitions de devenir comédien, parce que j'étais très dépendant de l'association, tu vois.
Et est-ce que tu dirais que ça marque le premier gros échec de ta vie à toi? Parce que comme je disais, nous, quand on monte cette émission, il y a aussi cette idée de revenir sur les échecs. Parce qu'en vrai, les échecs, c'est ce qui forge et qui nous permettent de nous relever derrière. Est-ce qu'il est là le vrai premier échec? Et est-ce que tu trouves qu'à ce moment-là, tu as manqué d'accompagnement?
Je pense que, je ne sais pas si je dirais que c'est un échec. C'est plus là, ça a marqué la fin d'un... La fin d'un cycle, on va dire, tu vois. C'est le premier cycle de ma carrière d'acteur, mais ça a marqué la fin d'un cycle. Donc, du coup, non, je dirais pas que c'est un échec, mais ça m'a beaucoup impacté. Parce que derrière, après, tu vois, CTR, c'était vraiment, comme je te dis, Abou, c'était une...
Une famille.
Ouais, je sais pas comment t'expliquer. C'est... Quand tu me demandais ce que je faisais à la sortie de l'école, moi, automatiquement, j'allais là-bas au local, tu vois. Donc, ça veut dire, on regardait des films, on faisait du montage, on était tout le temps dans une énergie où on faisait du cinéma. C'est-à-dire que moi, en vrai, vraiment, depuis que... Je me rends compte avec du recul, hein, depuis que j'ai 12-13 ans, je baigne dans ce domaine. J'ai toujours été dedans. Et là, en fait, ça s'arrêtait vraiment subitement parce qu'on était dépendant des grands frères, tu vois. Et eux, dès qu'ils ont décidé de se barrer, ils ont pas forcément pris conscience
que des derrière, conséquences. Il y avait des gens qui dépendaient d'eux.
Exactement. Donc moi, beaucoup de déceptions. J'ai pu leur exprimer. Parce que moi, je suis pas quelqu'un qui ait ma langue dans ma poche. Tu vois, j'ai pu leur dire que j'ai pris ça comme un abandon. Mais voilà, avec du recul, la cicatrice, elle s'est refermée. Et grâce à Dieu, tu vois, aujourd'hui, les choses. Et je pense que, tu vois, c'est tout ce qu'on a pu, les graines qu'on a pu semer à l'époque qui germent aujourd'hui. Donc, tu vois, ça fait partie du parcours.
Et tu fais quoi, du coup, en 2010, quand tout ça s'arrête? C'est quoi la suite? Est-ce que tu...
2010.
Tu taffes, tu... Ouais, c'est quoi le...
2010, je suis un peu au charbon. Donc, ça veut dire 2010, ouais, je taffe, tu connais, intérim, manutention, genre de mission et tout, là. Je suis un peu dans ça. Et jusqu'à à peu près... Après, tu vois, je suis un peu aussi dans ma vie de... Je vais pas dire ma vie de débauche, mais je suis un peu dans un... 2010, j'ai 20 ans. Donc, je suis dans un truc où je sors pas mal, tu vois. Mmh. Je suis un peu dans... Je life. En vrai.
Tu vis ta vie.
Ouais, je vis ma vie, je fais mes expériences, je fais un peu de conneries, tu vois, En fait, j'ai perdu mon cadre, entre guillemets, parce que après, voilà, c'était beaucoup de ma vie, mais c'était pas que, tu vois, il y a la famille et tout. Mm-hmm. Mais donc, du coup, je suis un peu, on va dire, un peu en roue libre. Je suis de 2010, on va dire, à peu près à 2013. 2014, ouais, 2010 à 2013, je suis un peu dans une... Je sors beaucoup, on est sur Paris, donc je fais la fiesta. Je suis dans des histoires un peu... On va pas dire sombres, mais je suis dans des histoires un peu qui me correspondent pas, qui me ressemblent pas. Je fais des conneries. Ouais, c'est une période un peu trouble.
Et comment tes parents ils vivent justement cette période-là? Est-ce qu'on t'a accompagné? Est-ce que, et quand même toi, en fait, tu l'as vécu, et est-ce que cette période-là, c'est là où tu n'avais plus du tout d'espoir pour le cinéma dans le futur?
Bah, tu vois, cette période-là, j'ai 20 piges. Donc, tu vois, les parents, déjà, ils t'ont... Moi, j'ai eu, je ne vais pas dire mon indépendance tôt, mais déjà à 16, 17 ans, quand même, tu vois, ouais. Vu que, tu vois, j'avais taffé et tout, ma mère, dans sa tête, voilà, c'est un grand garçon et tout, elle était... sur mes côtes, mais pas, tu vois, c'est pas la mère qui est oppressante, qui t'appelle tout le temps et tout. Donc ça veut dire, ils étaient pas forcément au courant de ce que je faisais quand je sortais, tu vois. Tu connais, nous, à la maison, on se comporte super bien. Donc c'est pour ça, des fois, quand les gens remettent en question l'éducation des parents, tout ça, c'est que nous, à la maison, il y a un cadre. Tu le dépasses pas, le cadre. C'est carré. Et après, la réalité de l'extérieur, des fois, c'est toi, tes amis, tes influences. Donc, tu vois, moi, ils n'étaient pas forcément conscients de ce que je faisais, que je faisais de la merde, en fait, tu vois.
Dans cette période, il y a quand même quelque chose qui va te faire prendre conscience de l'importance de ce que tu fais. C'est cette cicatrice que tu as à la joue.
Ouais.
Comment elle intervient? Et si tu veux bien en parler.
Ouais, bien sûr.
Et qu'est-ce que ça a surtout réveillé chez toi?
En fait, cette cicatrice, elle vient dans la période où, comme je t'ai dit, je suis beaucoup dans les sorties et tout. Donc, je me comporte pas bien. Je crois qu'en plus de ça, j'en parlais avec un ami. Récemment, on était à un mariage ensemble et on s'est rappelé un peu cette histoire parce qu'il était là ce jour-là. C'est dans une période où, à bout, en vrai, t'as vu, il y a le karma. Faut pas se mentir. T'as vu, moi, je le sais. Si j'ai ça, je l'ai mérité à un moment donné parce que les semaines précédentes et tout, j'avais eu des histoires pareilles où j'étais dans des trucs un peu... Et au final... se passe cette soirée où ça y a des échauffourées, ça part un peu en cacahuète et je prends un coup de bouteille dans la tête. Je prends un coup de bouteille et là en vrai, tu vois directement, je sais que c'est grave ce qui m'est arrivé, tu vois. Donc du coup, mes amis sur place, on part. Le coup de bouteille, il est intervenu comment? On était en soirée, on était un peu éméché, on va dire, et petite embrouille, ça se bagarre. Et je prends un coup de bouteille. Donc, du coup, hôpital, point de suture. Là, gars, c'est vrai que c'est un moment qui était... Là, je dirais que c'est peut-être ça, le premier échec.
Ouais. C'est ici qu'il intervient.
Là, pour moi, c'est un échec. Parce que déjà, j'ai la sensation d'avoir perdu une bagarre. Alors que tu vois, aujourd'hui, avec du recul, je me dis c'est le karma. Mais tu vois, déjà, j'ai l'impression d'avoir perdu. Parce qu'en vrai, le mec, il m'a atteint physiquement. Et au-delà du physique, c'est psychologique. Parce qu'en vrai, ton visage, il est différent. Donc, tu vois, ça t'atteint. Et peut-être c'est la première fois de ma vie, en réalité, que je rentre dans une phase un peu dépressive. On va dire que je suis en dépression parce que ton visage change. Et après, grâce à Dieu, tu vois, moi, quand même, comme je disais à Joe, quand on en parlait, moi, à l'époque, j'étais avec la mère de ma fille qui m'a beaucoup soutenu. J'avais ma mère aussi. Et dis-toi, pour l'histoire, c'est qu'il m'arrive cette embrouille. Ma mère, elle rentre du Sénégal. Je dois aller la chercher à l'aéroport. Je suis dans la voiture.
Tu vois, je suis dans la voiture et je viens de me faire le truc, tu vois. Ouais. Et je suis dans la voiture avec elle. Elle, elle m'a pas encore vu. Elle était au Sénégal, 2012. Putain, ça remonte. J'avais 22 ans. Et donc, du coup, je suis dans la voiture, bam, bam, je vais la chercher. Et t'as vu, j'essaye de me cacher quand je conduis. Et elle, tu connais, c'est une maman. Elle me regarde, elle me dit, t'as rêvé quoi, là ? Je dis, oh, j'ai eu une histoire et tout. Nanana. Elle me dit, mais... Oh, c'est pas passé loin de ton œil et tout. Elle, tout de suite, elle est...
Tu ouais, vois, réflexe elle inquiète, de parole, elle inquiète.
Et c'est là aussi, même moi, je prends conscience. Après coup, je me dis, mais ouais, en vrai, elle aurait pu me crever l'œil, le mec, tu vois. Donc, tu relativises, tu te dis, bon. Mais il faut vivre avec. Donc, du coup, après, t'as tout le processus de cicatrisation, tout ça. Et là où ça a eu un impact, c'est que forcément, derrière, je lève le pied. Je suis plus trop dans...
Ça te réveille quand même. Je me canalise. C'est pas un truc qui arrive pour rien.
Je me canalise. Je reste calme.
Et tu mets très bien la flèche.
Ouais, je kiffe ce bébé.
Tranquille. J'écoutais en tout cas l'interview avec Actu Club. Tu disais aussi que, enfin, il y a cette cicatrice qui arrive. Forcément, le cinéma, c'est un métier d'image.
Ouais, bah oui, exactement.
Donc toi, ça remet en question aussi.
Bah exactement. Tu vois, déjà entre 2010 et 2012, il se passe 2 ans. Dans cette période de 2 ans, je taffe, mais je taffe pas de ouf. Donc ça veut dire que je fais un peu de pub et tout, ce genre de choses. Mais là, 2012, je me dis, mais là, c'est chaos, c'est mort. Je vais plus jamais avoir de taf. C'est impossible. Là, j'ai trop une tête cramée, en vrai. Et du coup, ouais, c'est vrai que là, tu te dis... Là, en vrai, dans ma tête, tous mes espoirs, même si je te mens pas depuis 2010, entre 2010 et 2012, j'y pensais pas trop, j'y pensais plus trop. Mais là, je me dis, c'est chaos, c'est mort.
Entre-temps, tu vas quand même pas arrêter. Tu vas continuer à vivre ta vie. Tu vas travailler dans le social.
Exactement.
Tu vas faire une formation. Comment on arrive à rentrer dans le social ? Je crois qu'il y a une histoire d'usine où tu es à l'usine, il y a un grand qui passe. Et...
Ouais, ça, c'est une anecdote, tu vois. Un grand de chez moi, Esdin, il s'appelle. Je travaille à Comble-la-Ville. Les mecs de chez moi, ils connaissent Logidis. C'est un entrepôt où tu travailles dans le froid et tout. Et moi, je taffais là-bas, à Logidis. Et un jour, lors de ma pause, lui, il venait pour charger la marchandise dans l'usine où je travaille. Et il me voit à ma pause déjeuner, on est au mois d'août. Comme on travaillait dans le froid et tout, j'étais grosse doudoune. Et il me dit, mais Max, tu fais quoi ici en vrai ? Je dis, je travaille. Il me dit, mais non, mais tu peux pas travailler ici. Là. Il me dit, c'est pas bien, mais il me dit, regarde autour de toi. Il me dit, t'es pas à ta place. Tu vois, il me fait vraiment prendre conscience que, gars, t'as 22, 23.
Ouais, t'es jeune encore.
Tu vois, essaye de quand même faire quelque chose. Forme-toi, sors un peu de ça. Ne te contente pas de ça parce qu'au final, tu peux vite rester 10 piges dans ce genre de boîte. T'es bien payé en vrai. Les horaires, elles sont tranquilles. C'est un taf, il est accessible, tu vois. Mais tu peux vite t'enfermer dans ce genre de taf. Et lui, en fait, le fait qu'il... Franchement, il a joué un rôle un peu déterminant parce que ça m'a vraiment marqué quand il m'a parlé. Et tu vois, c'est des personnages, en vrai. C'est un grand de chez moi. C'est pas forcément le grand de chez moi avec lequel je suis le plus proche. Mais au moment où il est venu me parler, c'est pour ça que t'as vu la transmission, l'échange entre nous, c'est important. Parce que des fois, pas donner de l'argent, juste parler une bonne parole, des fois, ça peut créer un déclic, tu vois. Et lui, vraiment, ça a créé un petit déclic dans ma tête. Et c'est vrai que je me suis remis un peu en question. Et c'est là que j'ai décidé de me former, en vrai, au métier d'éducateur.
Tu te formes et tu deviens éducateur ?
Exactement.
Ça t'a appris quoi, le métier d'éducateur ?
Ah, gars, le métier d'éducateur, ça m'a appris énormément. Comme je t'ai dit déjà, t'as vu, on a parlé de mon parcours scolaire. J'étais quelqu'un dissipé, insolent, tout ça. Oublie ce genre de choses. Parce que si tu dois inculquer un cadre à des jeunes, faut que toi, déjà, dans un premier temps, tu sois exemplaire. Donc déjà, que ce soit dans ta posture... Dans ta façon de parler, dans ta façon de t'exprimer, les grossièretés, ce genre de choses, chut, oublie, il faut que tu sois exemplaire. Donc déjà, moi, ça m'a forcé déjà à être carré, tu vois. Donc ça m'a, en même temps que je leur transmettais des choses, moi, ils m'ont beaucoup appris aussi en retour, tu vois. Donc ça m'a mis un cadre, une discipline. Et après, c'est quand tu vois moi j'ai travaillé sur des situations, des fois c'était compliqué, donc tu vois, tu relativises même sur toi, ta vie, tu vois, tu
te dis, ouais, en fait t'es un chanceux,
mec. Mais surtout, même quand je te dis, moi j'ai grandi dans un cadre, tu peux pas dire que j'ai grandi dans la misère,
ouais, des parents aimants,
mec, parents aimants, frères et sœurs aimants, je manque de rien, je mange à ma faim. Et tu vois quand même des petits, ça fait mal au cœur des fois, tu vois, des petites 6 ans, moi les plus petits dont je m'occupais, après je me suis occupé de beaucoup plus petits, mais quand je travaillais à Paris, à la Maison du Sacré-Cœur, je m'occupais d'un groupe de petits, c'était des petites 6 ans. Tu vois les histoires, frère, les histoires sordides. La mère, le père, ils se sont fait péter pour une histoire de braquage. Le petit se retrouve placé en foyer. Et t'as toute une fratrie. Et donc, tu te retrouves face à ce genre de situation.
Ouais,
donc, franchement, déjà, tu relativises. Et moi, ce métier, il m'a apporté aussi. Je suis déjà quelqu'un, quand même, qui est vachement à l'écoute. Mais là, beaucoup plus. Après, c'est un métier à double tranchant. Parce que moi, je prenais tellement les situations à cœur que
Ouais,
des fois, je
on peut
rentrais,
rentrer à la
frérot, hey,
maison.
gars, j'arrivais pas à me sortir les choses de la tête, tu vois. Dès qu'il y avait un gamin, il avait un problème, il fallait que je trouve la solution. Mais c'est un métier, franchement, il est magnifique. On manque d'éduc en France, tu vois, mais d'éduc impliqué. Je te parle pas de juste.
Pas d'être là pour être là,
T'as
mais d'être
compris?
là.
Pas des mecs qui viennent prendre leur paye, parce que ce métier-là, en vrai, tu peux trouver des. Comment dire? T'as des
Des
prises en
filons.
charge où tu peux prendre de l'argent, mais en vrai, ce métier, si t'es pas animé par quelque chose de sain ou vraiment que tes intentions, elles sont pures, ne fais pas ce taf. Et là, moi, vraiment, pour le coup, je me suis un peu fait bouffer, mais avec l'expérience, j'ai appris à prendre du recul sur les situations, de la distance, et ça allait beaucoup mieux. Mais c'est vrai qu'au tout début, c'était prenant, gars.
Est-ce que tu dirais que c'est le moment où tu étais peut-être le plus épanoui dans ta vie
Ouais, complètement.
Parce
Mec, je
que
te
même
jure.
quand t'en parles, ça se ressent,
Mais
c'est
à bout, je te jure, quand j'allais au travail, j'étais content. Parce qu'en fait, tu vois, moi, j'aime trop
Pourtant, c'est
les.
un métier difficile, hein.
Mais j'aime trop les jeunes, en vrai. Bon, ça peut paraître bizarre dit comme
Non.
ça. Voilà, mais j'aime
On a
trop. En
compris dans quel
fait, ouais,
sens.
t'as compris. Mais j'aime trop les jeunes parce que, en vrai, tu sais, il y a. Tu vois, ton expérience de vie, toi, tu veux absolument leur éviter de vivre ce genre de choses. Et en vrai, voilà, dès que tu as expérimenté des choses, tu sais que le chemin, il n'est pas bon. Donc moi, si je peux te faire emprunter un itinéraire différent, tu vas faire tes conneries, tu vas faire tes erreurs, mais sache que je t'ai vu, je suis passé par là. Fais-moi confiance, passe par là. Et en vrai, moi, c'est le seul métier où je me suis senti un peu, on va dire, légitime. J'ai jamais eu vraiment de mal à intégrer des équipes et à créer du lien avec les petits,
Là, il n'y
parce
a
que
plus le
je.
syndrome d'imposteur.
Non, là, vraiment, pour le coup. Et tu vois, le social, tu vois, là, je fais du cinéma, mais c'est un truc que toute ma vie, ça
Ça
me.
va t'animer.
Et là, j'ai vraiment des projets, tu vois, que ce soit avec ma sœur, où j'ai vraiment envie de mettre des choses en place dans le social. Si Dieu veut, j'espère que ça se mettra en place.
On te le
Mais
souhaite.
c'est un truc, tu vois, qui fait partie de moi, en vrai.
Et 2023, il y a la
2023.
gravité.
Yes, I.
C'est le retour au cinéma.
Grave. Comeback.
Mais qu'est-ce qui se passe? Comment ça se passe? C'est dingue. 13 ans après, et 13 ans après, pas pour un petit rôle.
Ouais.
Pour peut-être je te souhaite de jouer encore plus grand, mais pour l'instant, le rôle de ta vie.
Ouais, de ouf.
Comment ça se passe?
Comment ça se passe à bout? Ça se passe 2019. Je reçois un mail de Coralie Amedeo, directrice de casting qui s'occupait du casting de La Gravité à l'époque, qui souhaite me rencontrer. Elle me dit que Cédric me souhaite me rencontrer pour son film La Gravité. Et faut savoir que Cédric Ido, déjà, grande dédicace à Cédric Ido parce que c'est grâce à lui aujourd'hui que tout se débloque. Parce qu'il m'a fait confiance. Et je rencontre Cédric Ido pour le casting de La Gravité. Et tout de suite, ça match. Tu vois, tout de suite, le gars, on s'entend super bien. Je passe le casting pour le rôle de Daniel. Je ne sais pas si tu as vu La Gravité à bout.
Non, j'ai pas regardé la gravité,
Regarde le
malheureusement. Il faut que je
mec.
regarde la gravité.
Je passe un premier casting pour un autre personnage. Après, je passe le casting pour le rôle de Daniel, là, le rôle principal. Et ça se passe super bien, mais on est en 2019. 2019, c'est l'année de la pandémie, là, début du
Covid.
Covid. Ouais, on est dans la période de Covid. Donc, du coup, le film, il se fait pas immédiatement. C'est pas comme le tuteur, là, le premier casting que j'ai fait, ça s'est
Ou
fait
un
dans la
mois après, t'es
continuité.
dans le
Là, ça s'est
filet.
fait quasiment 2 ans après le casting. Donc, du coup, il a fallu être patient. Mais en vrai, Cédric, il a tenu parole. À chaque fois, il prenait de mes nouvelles. Et en 2021, on tourne La Gravité.
Mais ça veut dire que c'est même pas toi qui fais le sens d'aller vers eux pour postuler à ce
Ah non, ils
casting-là,
sont
c'est
venus me
eux qui
chercher.
viennent. Mais c'est en fait, c'est peut-être le plus dingue dans ton
Mais
histoire.
bien sûr.
C'est que toi, est-ce que t'avais fini avec le cinéma en fait? Ça y est, c'était.
En vrai, j'avais pas terminé dans la mesure où en 2016, ça c'est une étape aussi importante. En 2016, je monte une association qui s'appelle Nous Productions. En fait, c'est une association, on s'est calqué complètement sur ce que faisait Cité-Art. On a appelé ça Nous Productions, où pareil, tu vois, on est une asso, mais on se comportait un peu comme une boîte de prod. Nous, notre goal, c'était de pouvoir créer et réaliser et produire notre contenu. Donc ça m'a remis un peu les pieds dedans, tu vois. Et nous, dans notre collectif, il y a Amzien Reaz, Eddy Mishichi, Oussem Boulifa et Pops Fortes. Pops Fortes, lui, il est réalisateur. Et lui, il me remet un peu le pied à l'étrier en 2017. Tu vois. Il écrit un court-métrage qui s'appelle Bande à part. Et il me confie le premier rôle de ce court-métrage. Donc, tu vois, j'étais un peu dans un retour, mais à petite échelle. Et donc, du coup, 2019, ça vient un peu concrétiser tout ça. Et aussi, ce qui est important, c'est que dès qu'on crée l'association, nous, ce qu'on fait, c'est le premier truc, c'est qu'on va dans les maisons de quartier, dans les centres sociaux, on fait des ateliers vidéo. Pareil, tout ce dont on a bénéficié, on essaie de le refaire, de le remettre en place. Et en vrai, ça, je suis sûr que les gamins, ils m'ont apporté une baraka de ouf.
Mais est-ce que c'est pas pour ça que t'as réussi? J'ai l'impression que t'as toujours été dans rendre ce qui t'a été donné. En fait, t'as jamais été dans le perso.
C'est comme ça la vie. C'est pas compliqué.
Mais parce que c'est vrai qu'on a souvent ce truc de quand on réussit, nous, de ça y est, j'ai réussi. On oublie un peu ce qui s'est passé derrière. Alors que toi, t'as toujours été dans cette démarche de faut que je rende ce qui m'a été donné.
Ouais, Dieu m'en préserve. Mais moi, c'est comme ça. C'est comme ça que je visualise les choses. Tu vois, sans démagogie ou quoi. Tu vois, je suis personne. Mais en vrai, si tu m'as donné, je peux rendre. Si tu m'as appris quelque chose qui est positif, eh ben, si je peux le retransmettre, pourquoi je le garderais pour moi, tu vois. Et c'est un peu avec cette mentalité que j'avance. Des fois, ça peut te porter préjudice. Hein, parce qu'il y en a, moi, je t'ai dit, il y en a, ils m'ont saigné. Hein. C'est-à-dire, ils viennent, ils prennent tout ton jus, ils t'essorent, ils prennent toute ta force. Et après, derrière, bon, ils prennent des trajectoires. Mais en vrai, moi, je le fais pour les bonnes raisons. Je sais pourquoi je le fais. Et je sais que tu as vu, nous... Comme je te disais, tu vois, ce côté identification, c'est des métiers où on a l'impression que c'est inaccessible. Mais le fait d'aller vers les gens, les plus jeunes notamment, et qui voient un peu à travers ton parcours, même à travers leur regard, que ouais, effectivement, je peux faire la même chose que Max, ça me fait kiffer, tu vois. Et en vrai, ça coûte rien. Ça coûte rien.
Quand la gravité, ça sort, c'est quoi la réaction de tes parents, de tes proches, des gens autour de toi?
Ah, la gars, c'est...
Est-ce que t'as déjà ta fille à ce moment-là?
Ouais, ma fille, elle est née en 2017.
Du coup, en plus, elle est en âge de comprendre un
peu. Et viens voir le film. Ça veut dire que ouais, ma fille, déjà, elle est fière de fou. Franchement, c'est ma première supportrice avec la maman. Mais ouais, la gravité, c'est... Tu vois, si tu veux, c'est the projet, en vrai. Mm. C'est le projet le plus important de ma carrière, en vrai. Et du coup, ouais, ça marque un peu un changement. Même pour moi, tu vois, pour la suite, t'as vu, j'ai eu un avant et un après gravité, tu vois. Donc, tout s'accélère, tout rentre entre guillemets dans l'ordre, on va dire, tu vois. Et ouais, la gravité, c'est fort.
Tu t'attendais à un tel succès?
Non.
Tu pensais pas que ça allait...
Non, je m'attendais pas. Franchement, je suis la vérité. Quand je lis le scénario, je kiffe directement parce que vraiment, c'est quelque chose de différent, tu vois. Dès que je lis, je me dis...
Ah, c'est ce qu'il dit aussi, Maxido, il voulait sortir des films clichés sur le banlieue.
Et franchement, Cédric Ido, c'est un fou, en vrai, tu vois. Lui, il a une vision, c'est puissant. Mmh. Je lui souhaite qu'il fasse encore tellement de films parce qu'il a tellement de choses à raconter. Et franchement, à la lecture du scénario, je me dis, ouais, bien, le film, il est bien, mais je sais pas trop ce que ça va donner à l'image. Après, moi, je t'ai dit, le truc, c'est que quand je vois le film, je fais, putain, c'est fort.
C'est lourd ce qu'ils ont.
Ouais, c'est fort, c'est fort. Franchement, entre la lecture et le tournage et la version finale, quand tu vois, tu peux te dire, ah ouais, non. Mais là, pour le coup, il a été au bout de toutes ses idées. Mmh. Malheureusement, je pense que ce film-là, et s'il avait un peu plus de pépettes, il aurait pu faire un truc un peu plus costaud, mais déjà, franchement, avec ce qu'il avait, il a réussi à faire un truc respectable. Très beau film.
Bah, tellement beau film que tu vas même être... tu vas recevoir un courrier des Césars, nomination meilleur espoir.
Ouais.
Ça, t'es dans quel cadre? Ça se passe comment? T'es assis où? Moi, je veux tout savoir. T'es assis où? Tu portes quoi?
Ah bon,
tu regardes quoi?
Regarde.
Il se passait comment? C'est une dinguerie.
Regarde, déjà. Moi, je fais la gravité. Donc, je fais la gravité, bam bam, le tournage, il se passe en 2021. Moi, toute l'année, je suis bien, je suis intermittent, c'est la fin de mon intermittence. Donc, du coup, je reprends un poste dans le social.
Toujours.
Je reprends un poste. Toujours lucide, je suis obligé de...
Garder les pieds sur terre. En plus, tu as déjà vécu la situation.
La vie d'artiste, ça, c'est même pas dans mon état d'esprit. Mmh. C'est que le charbon qui va t'emmener, en tout cas, une sécurité financière. Il faut toujours travailler. Donc, je prends mon poste en tant que travailleur social. Mais là, pour le coup, c'est un autre public. Je suis au bureau. Je travaille à Ressorangis. Je suis posé, tranquille, fin de journée. Je suis seul au bureau. Et je suis sur Instagram, je reçois mes DM, je vois Académie des Césars.
En plus, il DM sur Insta. Mec, l'Académie des Césars, il DM les gens sur Insta.
Ils m'ont DM.
Moi, ça je pensais que c'était un courrier recommandé avec avis de réception.
Ils m'ont DM, ils m'ont tagué. Donc, ça veut dire maintenant. Ça veut dire maintenant, ils me DM. J'ouvre le DM. Déjà, je bug avant d'ouvrir le truc. Tu vois, je suis là, je fais ouais, c'est quoi ce délire? Académie des Césars, je clique, et je vois la liste et je vois mon blaze, Max Gomis dans la gravité. Prénommé. Je fais waouh. Et là, vraiment, je te jure, hein, sincèrement, Abou, je pourrais pas t'expliquer tout ce qui a traversé mon corps. C'était.
C'est dingue.
Mec, franchement, c'est un truc de ouf. J'étais tellement.
Mais c'est ouf, ils t'ont DM sur Insta.
Ouais, mon DM.
Tu t'es pas dit c'est faux ou un truc comme ça?
Mais frérot, moi, j'ai vu Insta, le gars, j'ai vu le truc, après tu connais. Nous, dès qu'on regarde une information, c'est source, il faut au moins 4 sources pour être sûr que c'est la réalité. Donc ça veut dire que je vais le truc, j'ouvre le DM, je vais sur le compte, je vois que c'est le compte officiel. Ouais, je capte, je fais ouah. Après la productrice qui m'appelle, ouais Max et tout, t'es prénommé dans la... Et dinguerie, franchement, je me dis, c'est une folie.
C'est qui la première personne que t'appelles? La première personne qui sait que t'es nommé après toi, du coup?
Première personne qui sait que je suis nommé après moi, c'est... Je crois que c'est ma sœur.
Ma sœur.
Parce qu'après, tu vois, je suis passé chez mes parents, je les ai vus, donc du coup, je leur ai annoncé. Mais je crois que c'est ma sœur, si mes souvenirs sont bons.
Et c'est quoi la réaction? C'est de...
Mais c'est une fierté de fou.
C'est dingue.
Après, tu connais les Césars. Moi, je vais pas faire le blagueur. Je m'étais pas vraiment... Je peux pas dire que, genre, en gros, j'étais au courant de tout ce qu'ils faisaient ou je m'intéressais un peu à l'Académie des Césars, ce genre de choses. J'avais jamais vraiment regardé. Mais je sais ce que ça représente quand même.
C'est l'équivalent des Oscars en France.
Tu vois ce que je veux dire? Je sais ce que ça représente dans le cinéma. Et en vrai, ouais, tu te dis, wow, c'est sérieux. C'est la reconnaissance un peu de ton travail. C'est-à-dire que j'ai envoyé dans la gravité, que tu le veuilles ou non. Si t'es quand même dans une liste de prénommés, c'est que t'as vu, t'as fait ton job, t'as fait ta partie du job. Donc c'est une vraie reconnaissance du milieu. Et donc du coup, ouais, c'est... Oh, Abou, franchement...
C'est dingue.
C'est une dinguerie.
Et malgré tout ça, tu te dis pas, ça y est, je suis arrivé, c'est bon. Il y a pas un moment où tu t'assois, ça...
Je peux pas. Mec, moi je te dis, c'est comme ça, c'est les montagnes russes. Donc ça veut dire que t'as vu, et en vrai, grâce à Dieu, il faut que je pense que toujours garder ce truc-là. Mais... t'es jamais vraiment arrivé, tu vois. Ça veut dire que tu peux avoir une éclaircie, après il y a une tempête, après il y a une éclaircie, après il y a une tempête. Moi, c'est toute ma life, ça. Donc, ça veut dire que même si j'ai eu du mal à savourer vraiment pleinement, parce que tu vois, j'en parlais aussi à Joe, tu vois, moi, cette année-là, c'est l'année où j'ai perdu mon ref, Bernie, pas son âme. Et donc, du coup, tu vois, c'était... Toute l'année, elle était chaotique. Ça veut dire que j'arrivais même plus à savourer, même le goût de gagner quelque chose. Je m'en foutais de faire participer à un truc, gagner, perdre. Tu vois, j'avais plus de côté. Et là, vraiment, ça m'a fait vraiment du bien. Et en vrai, c'est pas lui que j'ai eu au téléphone, mais c'est pour lui que j'ai eu ma première pensée. Cash.
Est-ce que ta vie, en fait, elle est... C'est pas un peu ça. C'est à chaque fois que tu montes un peu trop, il y a quand même quelque chose pour te rappeler que, ouais, Max, t'es là, mais n'oublie pas
exactement
d'où ça vient.
C'est ça.
Ta maman, forcément, tes parents, ils sont fiers, super contents. Ils le traduisent comment? Qu'est-ce qu'ils te disent? Montre un peu dans le foyer familial.
Ouais, ma mère, en vrai, comme j'aime bien le dire, moi, ma mère, elle a toujours cru... elle, tu vois, autant moi, j'avais vraiment zappé l'idée de devenir comédien, acteur, autant elle a toujours elle a toujours eu de l'espoir à ce niveau-là, tu vois. Et vraiment, elle m'a toujours soutenu, elle m'a toujours demandé de entre guillemets, continuer de prendre des nouvelles des gens qu'elle connaissait, notamment mon agent de l'époque, Jérôme Maldé. Elle me demandait à chaque fois comment ça allait. Elle me disait, t'inquiète pas mon fils, ça va se débloquer. Après, tu connais, c'est des trucs qu'on ne peut pas expliquer. C'est
des choses qu'elle ressentait.
Exactement. Franchement, son ressenti, il était bon. Mais elle était trop fière. Elle était trop fière.
Et ta fille, 6 ans, on comprend ce qui se joue?
6 ans, on comprend parce que moi, ma fille, j'ai eu la chance de vivre un moment comme ça avec elle. C'est qu'elle est venue à l'avant-première aussi, à Carré Sénart. Et donc, du coup, après, le film, il est un peu, tu vois, il y a des scènes un peu de violence et tout. Donc, elle n'a pas pu tout voir. Mais tu sais, le fait de... En plus, je ne sais pas si tu as vu l'affiche de la gravité.
Ouais, j'ai vu l'affiche. Ouais, l'affiche.
C'est une affiche de folie, frère. Le mec qui sort de nulle part, en vrai, t'as vu, t'es dans une affiche, donc ça veut dire que t'es identifiable direct. Et ma fille, en vrai, dès que juste elle voit l'affiche, elle est trop fière. On part en vacances l'été, ouais, mon père, c'est un comédien. à travers ses yeux là, mais c'est
est-ce
fou.
Est-ce que c'est pas la plus belle chose en
mais vrai. C'est moi vraiment, mais... je t'ai dit déjà, ah, j'ai pas besoin de. Moi aujourd'hui, c'est la vérité, dans ma vie, je suis comblé, j'ai pas besoin de grand chose. Mais à travers son regard, quand tu vois que ta fille elle est fière de son père,
c'est beau les enfants.
Hein, ouais. Mais frérot, c'est. Je te le souhaite à bout.
Je me le souhaite aussi.
C'est la bénédiction suprême, hein, frérot. Moi je te le dis, ma fille, c'est juste à travers ses yeux, si je sens qu'elle est fière, ah, c'est que j'ai gagné.
Et financièrement, on va parler un peu d'argent sans rentrer trop dans les détails. À chaque fois, je le dis avec mes invités.
Oh, on peut. Hein.
Ouais, mais c'est surtout, est-ce qu'on financièrement, là, on se retrouve, on se retrouve pas. C'est pour les jeunes aussi qui nous écoutent, qu'ils sachent. Est-ce qu'avec un film comme ça, parce qu'il y a cette fausse idée en tout cas, quand on vous voit à la télé, quand on vous voit au cinéma, ouais, pour nous, vous êtes milliardaire, millionnaire, le gars il voyage en jet et tout. Sauf que la vérité, en fait, c'est que la réalité elle est tout autre.
Ouais.
Et le monde, il est compliqué même pour vous, surtout intermittent du spectacle.
Encore plus.
Et comment ça se passe financièrement ?
Regarde, par exemple, sur un film comme La Gravité, il faut savoir que c'est un film annexe 3. Et en fait, c'était payé au minimum syndical. Donc, ça veut dire un film comme La Gravité, l'intérêt d'aller sur ce type de film, c'est plus la visibilité, notoriété. Mmh. Tu ne le fais pas pour être millionnaire. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, en vrai, mais tu vois, c'est comparé à un salaire moyen. Ce sera toujours plus. Mmh. Le prix d'une journée de tournage, c'est quand même, quand tu compares un peu à une journée classique où tu vas être payé au SMIC à 80 balles, 90 balles, là tu te retrouves vite à des 400 euros au jour. 500
la journée
euros
jour,
quand même. Sur le cinéma. Mais après, derrière, comme tu dis, c'est qu'il y en a, ils fantasment en vrai. Ils sont hors sol. Ils pensent que tu passes à la télévision, donc t'as un plâtré, t'es plein. Non. Moi, en tout cas, si les petits frères, ils écoutent, ils veulent faire ce métier, c'est pas comme ça, en vrai. C'est pas parce que tu passes à la télévision ou que tu mets des belles photos sur Instagram ou que t'es dans un truc ou quoi, que t'es plein, tu vois. On n'est pas des footballeurs et c'est un métier fragile, en vrai. Donc, certes, après, derrière, ce qui est intéressant, c'est quand tu fais ton nombre d'heures, tu bénéficies du statut d'intermittent qui donne le droit au chômage du spectacle pendant un certain temps, donc ça te fait des revenus réguliers sur l'année. Mais pour comparer entre, admettons, La Gravité et Ourika, ça n'a rien à voir, tu vois. C'est deux choses complètement différentes.
Ourika, tu étais beaucoup mieux payé.
Là, ça n'a rien à voir, frère. Parce que Gravité, pourtant, je suis premier rôle. Ourika, je suis dans top 5, tu vois. Mais ça n'a rien à voir.
Mais est-ce que tu continues du coup à travailler à côté ? Est-ce que tu...
Toujours.
T'es...
Moi en fait, ouais. Moi,
comme Abdé.
Moi en fait, frérot, moi je crois que je travaillerai toute ma vie.
Jamais arrêté.
Franchement, je travaillerai toute ma vie. C'est sûr et certain. Sûr et certain.
Même si le cinéma il te fait prendre des millions.
Inch'Allah.
On te le souhaite, Inch'Allah.
Tu vois. Mais en vrai, de vrai, là aujourd'hui, je peux pas te dire, ouais, je vais arrêter, je vais me consacrer qu'à ça à 300% et oublier la réalité de la vie, tu vois. Aujourd'hui, moi, t'as vu, j'ai la chance aussi de. J'ai une boîte, une société. Je travaille aussi dans le domaine du cinéma. Je fais de la prestation de service. Elle s'appelle Providence, Films et Services. Donc, je m'occupe de toute la logistique des films. Et en vrai, à l'heure actuelle, mes garanties financières, elles viennent plus de mon activité de ma société que du ciné. Même si, en vrai, j'ai fait des beaux cachets, tu vois, j'ai fait des bons cachets. Mais t'as vu, il y a les impôts, il y a ce genre de choses. Bah, derrière, t'es rattrapé par les... Tu vois ce que je veux dire ? Et nous, en vrai, il y a aussi ce truc-là où... C'est difficile. Moi, le meilleur conseil que je pourrais donner à un jeune acteur qui se lance, c'est coffre, mon pote. Rentre pas dans une folie des grandeurs où tu veux aller t'acheter des sables de luxe, où tu veux faire la mala ou béflan. Ça sert à rien. Ça, c'est claqué. C'est vraiment claqué. Le plus important, c'est que tu consolides vraiment un vrai capital et que tu puisses construire quelque chose qui va durer sur le long terme. Ne sois pas dans l'apparence, dans ce genre de choses. Parce qu'aujourd'hui, c'est des métiers où, regarde, demain, tu vas faire un événement, une manifestation, les marques, elles viennent, elles te prêtent des choses. Tu n'as même pas besoin de les posséder. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, va pas te foutre en l'air à vouloir paraître riche, alors que ce n'est pas le cas. Tu vois ce que je veux dire ? Sois simple. Sois simple. Et en vrai, tu peux vite monter un capital. Mais vraiment, ça s'adresse vraiment aux petits jeunes qui se lancent dès maintenant. Soyez intelligents.
Et... Est-ce que l'objectif, c'est de mettre la daronne à l'abri ?
Ah, complètement. Cette expression. Bien, ben oui, il faut mettre la daronne à l'abri. Mais déjà, moi, Ourika, ça m'a permis de faire quand même des choses cool pour ma daronne. Mais tu vois, il y a quand même ce goût-là où j'ai envie d'en faire beaucoup plus. Mais s'il plaît à Dieu, je pense que moi, une fois que je me serais, entre guillemets, libéré de ce poids-là, parce que c'est quelque chose qui me... tu vois, qui me préoccupe vraiment, parce que je sais, tu vois, y a, les calculs, ils sont simples. Si ta mère, elle est bien, toi, t'es bien. Mais tu peux pas être toi bien.
Et ta mère, elle est pas
frérot,
bien.
Frérot, c'est une réalité. T'as vu, ils roulent dans des bêtes de chop, ils ont des intérieurs chez eux, dans leur propre maison, c'est canon. Tu vois, chez tes parents, c'est claqué, frère.
Bah, c'est pas...
Tu vois, ça a pas de sens. Donc ça veut dire, tu vois, des fois... Après, il y a la réalité de la vie, tu vois, il y en a, ils ont aussi... Tu sais, on n'a pas tous grandi dans le même cadre de vie, cadre familial. Mais moi, t'as vu, c'est quelque chose qui me... Que j'ai vraiment envie de, entre guillemets, me libérer de ça. Si je sais que je peux mettre bien ma mère et qu'elle soit autosuffisante toute sa vie, parce que c'est une maman qui s'est sacrifiée, qui s'est pliée en quatre, moi, ma mère... C'est pour ça que je te dis, je pourrais pas arrêter de travailler. Moi, j'ai grandi avec une daronne. Elle avait des fois des trois tafs, frère. Des trois tafs.
C'est des vaillants temps.
Tu la vois en deux-deux. Moi, j'ai des souvenirs, frérot. Je te dis, hein, sans faire le mec qui fait tiep ou quoi. J'ai des souvenirs. Elle rentre du taf, elle est KO, elle ouvre le courrier. J'ai cette image-là, mon frère. Je veux la vérité. Elle mérite que je lui offre tout ce que je peux, tout ce que je peux lui offrir.
On espère que tu vas lui offrir.
Et s'il plaît à Dieu, ça va se débloquer. En tout cas, t'as vu aussi, on parlait du syndrome de l'imposteur. Mmh. C'est un truc où, grâce à Dieu, là, j'ai l'impression que j'arrive à me libérer de plus en plus de ce truc-là. Parce que ça me parasitait.
Ça
me parasitait. Déjà, dire que je suis comédien, c'est un truc limite. J'osais pas le dire, tu vois. Mmh. Parce que je sentais pas légitime. Mais aujourd'hui, je l'affirme fièrement, je suis comédien. Tu vois ce que je veux dire? Déjà, c'est étape par étape. Mais ça a mis du temps.
Mais c'est ouf parce que t'es pas le seul qui dit ça.
Ouais.
Il y a Bayoussard de Souvenir qui me disait pareil.
Ouais.
Syndrome de l'imposteur.
Et Bayou, j'ai bien échangé avec ce mec-là. J'ai beaucoup kiffé.
Et bah, lui aussi, super bon gars. Franchement,
ouais,
j'ai kiffé recevoir ici. Aziz Aboudrar aussi, pareil, qui parlait un peu de ce syndrome de l'imposture. Est-ce que tu penses que ce syndrome, il s'explique par le fait qu'on soit issu de l'immigration et par les conditions dans lesquelles on a grandi ou... Comment on explique en vrai ce syndrome-là?
Moi, je pense que ce syndrome, il s'explique par rapport au milieu, dans le sens où, comme on parlait tout à l'heure d'identification, dès lors où tu vois pas beaucoup de... Tu vois ce que je veux dire? Donc, ça veut dire que tu es là, tu te dis, bon... Et moi, je pense aussi à ce truc-là, j'ai ce débat-là aussi avec les gars de mon équipe d'Empreinte, c'est... Il y a une génération d'acteurs jetables, d'acteurs d'un film. Le mec, il vient, il fait un film, après, tu le vois plus jamais. Mmh. Donc, ça veut dire que tu peux pas te considérer en tant qu'acteur si tu as fait un movie et après, derrière, tu as disparu des radars.
C'est vrai.
Donc c'est difficile derrière de se dire « Ouais, je suis acteur, mais en vrai, t'as fait quoi ? J'ai fait un film. » Et derrière, plus de son, plus d'image, tu fais des quatrièmes, des quinzièmes rôles, tu fais des trucs où, tu vois, c'est pas l'intérêt. Et en vrai, le syndrome de l'imposteur aussi se caractérise par le fait que au-delà de l'identification, c'est le milieu. Faut te sentir à ta place. Ouais.
Mais moi, je pense que ça va venir avec toi, avec Banu, avec Aziz, avec le fait qu'il y ait de plus en plus de diversité dans ces milieux-là.
Bien sûr, ça va passer. Et en vrai, il faut que ça passe déjà. T'as vu, moi, comme je t'ai dit, j'ai une société qui s'appelle Providence. Mmh. Nous, on travaille dans toute la logistique des films. Sans nous, sans nos prestations de service, un film, ça ne se fait pas. Moi, j'ai fait mes classes chez JMC Films avant. Tu vois, c'est une boîte pour laquelle j'ai travaillé pendant 8 ans. Je me suis lancé cette année pour lancer ma propre société. Mais toute la logistique, que ce soit les métiers des convois, convoyer les camions, que ce soit même les métiers de la régie, même dans ces métiers-là, on n'existe pas, il n'y a pas de visibilité.
Ouais, c'est chaud.
Tu vois ce que je veux dire ?
C'est chaud.
Pourtant, c'est des métiers qui sont accessibles à tous, tu vois. Mais même dans ces métiers-là, on n'existe pas. Je ne te parle même pas des métiers d'acteur, caméraman, perchman, tout ce qui s'ensuit. Mais même dans la logistique, on n'existe pas. Et nous, à travers notre société, on essaye de faire bouger un peu les lignes. Parce que demain, un petit qui souhaite travailler dans le cinéma, mais pas forcément devenir acteur, il y a un tas de métiers. Il y a un tas de métiers à explorer ou à découvrir et que les gens ne sont pas forcément au courant parce que... T'as l'impression quand même, c'est un truc qui est...
C'est fermé. Ouais. On est condamné toujours à faire les mêmes tafs, préparateur de commandes.
Mais là, le goal, c'est quand même de pouvoir exploser ce truc-là, là, faire péter ce plafond de verre et que tout le monde soit décomplexé. Et ça passe par nous, tu vois. Si je vais pas te dire qu'on va tout changer du jour au lendemain, mais ça passe par nous, notre façon d'être. Si on montre que vraiment, on a zéro complexe, on n'est pas des imposteurs, on a notre place et qu'on doit exister dans ce domaine-là, les choses, elles vont se débloquer.
Bah on le souhaite en tout cas, on touche à la fin de cette émission, c'est passé super vite.
Bah ouais,
en une heure, on
n'a
pas parlé de tout, il y a Ourika qui est actuellement sur Prime, qui marche très bien,
ça marche bien,
dans lequel tu prestes. mais on touche malheureusement à la fin. Juste un petit mot quand même sur Ourika, comment on te contacte, comment t'arrives là-dedans, et c'est quoi, est-ce que t'es content un peu de ce que ça rend?
Ouais, Ourika, on m'appelle vraiment en dernière minute sur le projet, c'est la vérité. Je suis arrivé à J-4 du tournage, mais je suis trop content parce que le personnage, il est super intéressant. J'incarne un personnage qui s'appelle Taz. En fait, c'est un policier qui fait partie d'une équipe, la Brigade des Stupes, et qui va intégrer l'un des personnages principaux, incarné par Noam Edge, qui s'appelle William. Donc du coup, il va l'intégrer un peu à son équipe, tout ça. Et l'histoire, elle est super intéressante. Franchement, ça se regarde super bien.
Je vous invite à la regarder. Il y a beaucoup de gens qui ont regardé, qui m'en ont parlé.
Franchement, ouais, c'est une super série.
J'ai explosé la carte bleue. Je me suis pris Prime hier soir. Yeah, je vais faire ça là aujourd'hui.
Ah, t'as pas attendu l'IPTV, toi, hein.
Il faut donner aussi de la force. Est-ce que d'ailleurs vous êtes payé, vous, quand nous on prend Prime, est-ce que vous touchez un pourcentage?
Tu te calmes, IPTV, non je rigole. tu peux regarder sur Amazon, forcément je pense que c'est bien pour eux, mais moi je pense pas que ça a un impact direct sur moi.
Ça a pas d'impact sur moi.
Moi en vrai l'intérêt aujourd'hui...
Prime 6,99, ça va, c'est pas...
Ça va, ça en va. Plus t'as le premier mois gratuit, après tu
ouais,
peux supprimer.
T'as 30 jours gratuit.
Moi tu connais, moi à bout je suis...
Après moi j'ai des plans. Hein.
Donc je suis obligé d'avoir Amazon Prime. Donc tu vois...
T'as pas le choix.
Ouais, mais du coup ouais, c'est l'idée là, franchement Ourika c'est vraiment le projet, t'as vu il y a eu la gravité, Ourika là vraiment c'est autre chose, c'est Amazon, c'est 240 pays, c'est international, donc je suis très très content d'avoir fait ce projet, et voilà, espérons qu'il y ait une saison 2 et que les choses
continuent à péter, ouais. Non, aucun doute sur le fait en tout cas que tu vas continuer à tout exploser, hein. On va finir sur un jeu.
Yes,
le même jeu que je fais avec tous mes invités, je commence des phrases et tu dois les terminer.
Allez.
Est-ce que c'est bon pour toi?
Bah oui, bien sûr.
Le cinéma pour moi, c'est...
C'est un outil pour pouvoir exprimer des sentiments.
Je trouve que les acteurs d'aujourd'hui sont
talentueux.
Être noir en France aujourd'hui, c'est...
C'est pas simple.
La religion, pour moi, c'est...
Fondamental.
Le social, c'est ce qu'il y a de plus...
Ce qu'il y a de plus important.
J'aimerais dire à Miguel Saez que...
Que je l'aime.
Sans citer art, je serais...
Sans doute en bas de la tour.
Abdé Maziane est un acteur...
Extraordinaire.
Pour faire du cinéma, il faut...
La conviction.
Apprendre un texte, c'est ce qu'il y a de plus...
Important.
Être acteur, c'est plus facile pour...
Pour les déterminer.
Ma fille, est-ce qu'il y a de plus...
Ah, de plus... merveilleux.
Le plus dur quand on est une personnalité publique, c'est...
C'est de garder la tête froide.
Le futur pour Max Gomis s'annonce...
S'il plaît à Dieu, radieux.
Être, ça rime en plus. Être supporter de l'OM pour la santé du cœur, c'est...
Pouah, mon frère. C'est une angoisse.
Mais sur cette fin de saison, l'Olympique de Marseille va bien évidemment...
Gagner l'Europa League.
C'est ce qu'on souhaite. Ouais. Mon interview du jour, elle s'est...
Terminée.
Parfait, merci beaucoup Max Gomis en tout cas d'avoir accepté l'invitation. Je remercie, j'en profite aussi pour remercier Abdé Maziane qui nous a mis en relation. Franchement, super bon type Abdé. Et merci à toi, continue ce que tu fais, t'as vraiment véhiculé des super beaux messages, et comme je le dis à chacun de mes invités, nous on a créé vraiment cette émission aussi pour montrer aux jeunes que malgré les échecs et les désillusions, on peut quand même y arriver, et le message que tu transmets, il est formidable, et tu le manifestes à travers ce que tu crées aujourd'hui, l'assaut que t'as fait aussi, et j'en suis sûr que tu vas apporter beaucoup au cinéma français, et qu'il va se diversifier encore plus grâce à toi, donc continue, lâche pas. C'est le même message que je disais à Bayoussard qui disait on a ce syndrome de l'imposteur, bah vous êtes pas des imposteurs, et sachez que vous êtes une fierté pour nous en tout cas, nous jeunes quand on vous regarde, on se dit ah ouais c'est possible d'être noir, d'avoir grandi en banlieue, d'être né en banlieue, et de quand même réussir, donc voilà, continuez, vous nous faites plaisir. Et grâce à vous, dans 10, 15, 20, 25 ans, nos enfants et petits-enfants auront peut-être aussi la chance de faire des têtes d'affiches de films.
Et merci à toi, Abou, franchement, pour ton accueil, ton professionnalisme, ton sérieux. Franchement, même toi, il faut mettre vraiment en avant le fait de tout ce que tu fais, tout le travail que tu mets en place. Et je te souhaite vraiment, j'espère que c'est que le début, parce que franchement,
C'est carré de chez carré. Hein, bah,
merci beaucoup, ça fait super, super plaisir. J'en profite pour remercier Nas qui était à la production vidéo. J'en profite également pour remercier Jason qui était à la technique. Sans Jason, pas d'émission. Et bien évidemment, on remercie mon Paris FM pour tout ça. Et isnews.fr, passez une bonne soirée, un bon dimanche. On est dimanche soir, là, l'émission elle sort ce dimanche, donc on est dimanche soir. Passez un bon dimanche, faites attention à vous, prenez soin de vous et surtout aimez-vous. On est dans un monde compliqué. Comme ça. Belle soirée.
Là, je suis pas bien. Donc la morale, tu vas la faire à d'autres. Là, je suis pas bien.